penser, comment c'est rangé dans l'évangile de Jean. Et Jean chapitre 5, c'est un passage, le début, enfin tout le passage est simple, mais le début est une histoire encore plus simple. Je veux dire, impossible de ne pas comprendre cette histoire. Et elle contient un message qui est plein d'espérance, plein d'assurance pour chacun d'entre nous. Puisque c'est une parole que Jésus prononce à un paralytique en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche !» C'est quand même merveilleux, n'est-ce pas? C'est facile à dire, mais il y avait la puissance de le faire, d'accomplir dans la vie de cet homme ce qui était impossible. Et si l'évangile n'était qu'une question de choses possibles, eh bien l'évangile n'aurait aucune utilité, n'est-ce pas? On n'aurait pas besoin de se rassembler, on n'aurait pas besoin de prêcher l'évangile. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit parce qu'il le vivait, parce que lui se souvenait, comme j'ai dit la semaine dernière, de son épisode sur la route de Damas, où il a rencontré Dieu. Eh bien, il savait que c'était la puissance de Dieu qui pouvait sauver. Et c'est ça le message de l'évangile, c'est que Dieu peut sauver, peut changer, peut faire l'impossible dans les vies. Et si vous avez des choses possibles à demander à Dieu, ben si ça se produit après, on va toujours vous dire, ben c'était possible. Je veux dire, moi, des gens vont vous dire, moi, j'ai pas prié et j'ai eu la même chose que toi. Il m'est arrivé la même chose que toi. Mais quand on a le témoignage de dire que Dieu a fait quelque chose d'impossible dans ma vie, il a fait quelque chose que rien d'autre pouvait faire, personne d'autre pouvait faire, eh bien, c'est merveilleux. Alors, c'est sur ce passage, lève-toi et marche, que je vais prêcher. C'est sur ce thème-là que je vais prêcher. Et on trouve, ne cherchez pas forcément, mais dans Genèse chapitre 17, il a dit ces mêmes paroles à un certain Abraham, qu'il avait choisi. Il avait choisi Abraham et il lui a dit, au chapitre 17, verset 2, « Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Marche devant ma face. Et cette parole s'adresse aussi à nous ce matin, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut que nous puissions nous lever et nous puissions marcher avec lui. C'est-à-dire que l'histoire de la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire d'une rencontre un jour avec Dieu. C'est certainement pas l'histoire d'une adhésion à une idéologie, à un enseignement, en disant « ben voilà, moi je suis allé dans une église évangélique par exemple, et j'ai entendu l'évangile, j'ai entendu le message, et je trouve que c'est pas mal, je trouve que ça correspond plus à la vérité, je trouve que les gens sont sympathiques, enfin, parce qu'ici il n'y a que des gens sympathiques, n'est-ce pas ? Donc les gens sont sympathiques, ça m'a beaucoup touché, etc. » Donc je me suis attaché à ce groupe, je me suis attaché, et voilà, j'ai décidé de continuer. Ce n'est pas ça, l'évangile. Il doit y avoir de ça, bien sûr, il doit y avoir de cet attachement sentimental, il doit y avoir de cette affection. Mais l'évangile, c'est une histoire de se lever, de marcher, alors que c'était impossible avant. Parce que Dieu ne vous demande pas quelque chose de possible. Il demande quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Comment spirituellement, comment vous pouvez dire, voilà, je me lève et je marche alors que je ne connais rien de Dieu, alors que je ne connais pas ce que c'est même de vivre une vie spirituelle. Tout ce que je sais, c'est comment je dois me comporter dans la société. Tout ce que je sais, c'est que je dois manger pour vivre, je dois avoir de l'oxygène, je dois avoir ceci ou cela pour pouvoir vivre. Mais tout ce qui est de Dieu, je ne connais rien. Comment est-ce possible ? Que je me lève et que je marche. Eh bien, c'est ce que Dieu a dit à cet homme, Abraham. Il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il donne cet ordre, mais il donne aussi la puissance de Dieu. Il donne son esprit pour pouvoir marcher. Et il a demandé, avant, dans le chapitre 12 de la Genèse, à Abraham, il lui a demandé de quitter son pays, de quitter sa maison paternelle, de quitter sa patrie, de quitter ce à quoi il était attaché, de quitter ce qu'il avait reçu, tout l'héritage qu'il avait reçu. Est-ce que tu es prêt à quitter cela. Ça ne veut pas dire physiquement nécessairement. Pour Abraham, c'était physique. Il fallait qu'il quitte là où il était installé. Mais pour vous et pour moi, ça peut être quitter la tradition de nos pères, la tradition que nous avons reçue. Ça peut être de quitter des pensées, un système de pensées. Ça peut être quitter des habitudes. Ça peut être quitter une manière de vivre, un certain confort de vivre. Mais c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à nous lever et à décider « Aujourd'hui, je veux changer ». Aujourd'hui, je veux changer. Vous savez que le principe que l'on a de manière naturelle, c'est d'attendre. Quand il y a quelque chose de difficile, de dire « Je vais attendre, je vais laisser ça à plus tard, je vais laisser ça à demain, je vais laisser ça à l'année prochaine, je vais laisser ça au moment où je serai prêt à mourir. » Je connaissais un pasteur qui, son témoignage, c'était qu'il avait dit qu'il se convertirait juste avant de mourir. Et il s'est trouvé un jour dans une situation, il n'est pas mort finalement puisqu'il a pu donner le témoignage, mais où la mort est venue rapidement vers lui et il voyait qu'il paniquait. Il n'avait pas du tout l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir se mettre en règle avec Dieu. Ce que Dieu donne comme message, c'est qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Levez-vous et marchez. Levez-vous en disant, voilà Seigneur, je veux que les choses changent. Je veux que l'insatisfaction de ma vie, ce sentiment à l'intérieur d'être vide, le sentiment à l'intérieur d'être lourd, d'être chargé, eh bien je veux que ça change. Je veux que cet état aussi, quelquefois de ronronnement spirituel qu'on peut avoir pendant des années, avec des années de vie chrétienne, eh bien Seigneur, je veux que ça change. Je veux recevoir ton Saint-Esprit aujourd'hui, qui me donne la puissance de me lever sur mes pieds et de pouvoir marcher. Je ne peux pas produire ça. Je ne peux pas produire ça par moi-même. Je ne peux pas faire cette œuvre dans ma vie. Avec la meilleure volonté, je ne peux pas dire, voilà, je vais commencer à vivre une vie chrétienne. Je ne le peux pas. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne le peut pas. Parce que si on le pouvait, ça serait catastrophique. Il y a des gens qui ont essayé. Il y a combien de gens qui ont essayé de marcher quand ils ne pouvaient pas marcher. Mais le message de Dieu, c'est non seulement de donner l'ordre, mais de donner la puissance du Saint-Esprit. Il a béni Abraham parce qu'Abraham a obéi. Abraham a été prêt à abandonner sa culture. Il a été prêt à abandonner tout ce qui l'attachait, tout ce qui était sécurisant pour lui. Et il a été prêt à suivre ce Dieu vers une destination inconnue. Et certes, Dieu vous appelle à quelque chose d'inconnu. Parce que si vous le connaissiez, ça veut dire que vous êtes déjà en lui, mais il vous appelle à le suivre, il vous appelle à vous donner à Dieu, à Jésus-Christ, et vous ne savez pas ce qui va arriver de vous. Mais c'est ça la foi, n'est-ce pas? C'est de pouvoir se lever sur la parole de Jésus et c'est pouvoir croire que lui va se charger de tout. Alors on va regarder ce passage dans Jean chapitre 5. Vous avez eu le temps de tourner vos Bibles à ce passage-là dans Jean chapitre 5, et le début du chapitre, eh bien, c'est un récit étrange dans le Nouveau Testament. Étrange. Il est question d'une piscine. Ça, c'est pas étrange. Il y en a bien une à Hasbrook, mais là, c'est la piscine qui s'appelle Bethesda. Et donc, dans cette piscine, il se passe un phénomène étrange, sur lequel il n'est pas nécessaire de s'attarder. Mais il se trouvait que l'eau était agitée par un ange de temps en temps, et la première personne qui se jetait dans l'eau était guérie. Alors c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, n'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses mystérieuses qui se produisent par-ci, par-là. Et Jésus n'a pas dit, mais regardez, il faut s'y intéresser, il faut considérer ça, il faut s'intéresser à comprendre ce phénomène, il faut comprendre, il faut savoir que cet ange, eh bien je le recommande, etc. L'emphase de l'évangile n'est pas sur ça. L'emphase de l'évangile est sur un homme. Et le Seigneur ne s'intéresse pas au phénomène. Il n'a pas donné sa vie pour des phénomènes qui se produiraient. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Il a donné sa vie pour les hommes et pour les femmes. Et ce qui l'intéresse, ce qui intéressait Jésus, c'est de voir qu'il y avait là un homme qui n'avait personne. Parce que c'est ce que cet homme lui a dit. quand il a rencontré Jésus, quand il a vu Jésus, Jésus a commencé à lui parler. Et cet homme a dit, « Je suis malade depuis 38 ans et je n'ai personne qui vienne et quand l'eau est agitée, qui me jette dans l'eau. Je n'ai personne. » Et peut-être, c'est le sentiment que vous avez dans votre cœur ce matin. « Je n'ai personne. » Je n'ai personne qui peut faire quelque chose pour moi alors que je suis depuis 38 ans, ou plus, ou moins. Je suis dans l'incapacité de marcher spirituellement. Je me rappelle la souffrance que ça créait chez moi lorsque j'étais adolescent et que j'entendais des hommes et des femmes chez qui je reconnaissais qu'il y avait une œuvre de l'Esprit, qu'il y avait la puissance de Dieu qui les avait transformés. Et moi, je voyais que je ne ressentais rien. Je priais le soir. Je demandais à Dieu de me sauver. Le matin, j'avais oublié ça. J'essayais de penser à autre chose. Mais le soir d'après, ça revenait, n'est-ce pas, ces pensées qui me troublaient. Et ce que je trouvais terrible, c'est de voir que des hommes et des femmes pouvaient dire « Je sais que Dieu m'a sauvé. Je sais que Jésus m'a transformé. Je sais que je suis né de nouveau. » Moi, je ne pouvais pas le dire. On me l'a posé, la question. On m'a posé la question « Est-ce que tu es sauvé ?» Et j'ai dit « Oui, oui, oui. » Vous voyez dans l'intonation de la voix, dans la façon de répondre, il n'y avait pas beaucoup de conviction. La personne qui m'avait posé la question était très charitable à mon égard, mais elle avait bien compris que je ne devais pas l'être. Je n'avais aucune certitude. Et le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, le jour où j'ai fait un pas vers Jésus-Christ et que j'ai accepté sa vie, il y a quelque chose qui pouvait jaillir de moi. C'est de dire « Je sais que je suis sauvé ». Et c'était instantané, c'était la seule chose qui s'est produite dans ma vie, immédiatement. J'ai eu le sentiment d'un fardeau qui était tombé de mes épaules, mais je pouvais dire « Je sais que je suis sauvé ». Et c'est ça, cette différence, vous savez, comme l'aveugle de la semaine dernière dans Jean chapitre 9, « Je ne sais rien, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». Et ça se vit, n'est-ce pas, ça se ressent. On le sait d'une manière sûre. Et avant, je ne pouvais pas le dire. Et cet homme n'avait personne. Il était allongé sur le bord de la piscine en attendant l'espoir. Et il y a des gens qui ont l'espoir tous les matins que aujourd'hui, ça va être un jour différent des autres. Que aujourd'hui, il va se passer quelque chose de spectaculaire. Combien de gens espèrent que aujourd'hui, ils vont gagner une grosse somme d'argent qui va régler tous leurs problèmes. Qu'aujourd'hui, quelqu'un va venir les voir. Qu'aujourd'hui, quelqu'un va leur dire « Je t'aime ». Combien de gens se lèvent le matin en espérant que ça sera une journée différente. Et vous savez, ce qu'on observe, n'est-ce pas, c'est que pour 99,9999% de la population, eh bien, aujourd'hui sera comme hier, voire pire. Et demain sera comme aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de choses qui se produisent comme ça. C'est très rare que ça se produise. Des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que veut dire évangile? Ça veut dire que c'est la bonne nouvelle. Et ce qui a été surprenant après 38 ans d'attente chez cet homme, c'est de rencontrer ce Jésus sur son chemin qui lui a dit « Lève-toi ». Prends ton lit et marche. Et cet homme instantanément s'est levé. Il a ressenti dans son corps qu'il se passait quelque chose. Il a senti que la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus-Christ qui est l'Évangile lui-même incarné, qui est la parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ lui donnait la puissance de se lever et de marcher. Il a senti que quelque chose était transformé dans sa vie. Jésus n'a pas dit « Attends, je vais attendre que l'ange arrive et je vais te jeter dans l'eau, n'est-ce pas, pour que tu sois guéri. » Il a agi parce qu'il avait la puissance et l'autorité de Dieu. Il savait que Dieu allait se manifester au travers de ce miracle. Et ce miracle parle encore aujourd'hui. Parce que plus de 2000 ans après, on peut encore parler sous ce miracle de ce que Dieu fait, et l'appliquer à la vie spirituelle également, aussi bien qu'à la vie physique. Dieu est celui qui permet qu'on se lève et qu'on marche. Je l'ai cité plusieurs fois, ce passage d'Ézéchiel, je crois que c'est le début d'Ézéchiel chapitre 2, où Jésus dit à Ézéchiel, où Dieu dit, pardon, à Ézéchiel, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Et immédiatement, il est dit que l'Esprit rentra en moi et me fit tenir sur mes pieds. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de marcher. C'est ça le message de l'Évangile, c'est que Dieu est puissant et il agit dans les vies. Les gens qui n'ont pas eu, qui ne peuvent pas dire « je sais que Dieu a agi », eh bien, sont des gens qui peuvent aujourd'hui demander au Seigneur « Seigneur, agis dans ma vie, je n'ai personne ». Je suis paralysé depuis 38 ans, je suis paralysé depuis moins ou depuis plus. Mais je crois que tu as la puissance de donner la parole qui va me faire me lever ce matin et me faire marcher. Alors, pourquoi Dieu nous demande de marcher? Et on va tourner dans Éphésiens chapitre 5. Et dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul qui a utilisé souvent cette injonction « marcher ». N'est-ce pas, dans Galates, il a dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon Dieu, c'est ça que ça veut dire. » Et dans Éphésiens chapitre 5, il nous donne deux aspects. Et le premier passage, c'est dans Éphésiens 5, verset 2, « Marchez dans la charité ou dans l'amour. » Marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher dans l'amour. C'est ça le premier commandement qui est donné à l'Église. C'est pas seulement de se lever et de marcher, et marcher dans toutes les directions. C'est marcher dans l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu, parce que l'apôtre Jean a dit « Dieu est amour ». S'il n'y a pas l'amour, alors il n'y a aucune reconnaissance que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, c'est à ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Et l'amour, ce n'est pas de se servir l'un l'autre seulement. Le service des uns et des autres ne doit être une conséquence de l'amour, quelque chose qui est à l'étape finale de l'amour, c'est-à-dire c'est la manifestation extérieure. Mais l'amour est quelque chose dans le cœur qui touche profondément toute la personne. Et il est dit ici, marcher selon l'amour, à l'exemple de Christ. Ça veut dire que chrétien veut dire petit Christ, veut dire disciple de Christ. Ça veut dire que dans ce monde, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour parfaitement appliqué, comme Jésus le faisait. Et quel est cet amour manifesté de Jésus-Christ? Eh bien, dans l'Évangile de Jean, si vous lisez l'Évangile de Jean, relisez l'Évangile de Jean. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je disais à la réunion d'hommes, la semaine dernière, que j'ai trois évangiles qui sont dans ma pochette de sac, et je crois qu'on me les a volés dans le métro cette semaine, et je suis tellement content que c'était en fait aucune carte bancaire. Aucun problème, mais les trois évangiles ont été volés. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont soif, qui recherchent. Ils ne savaient peut-être pas que c'était l'Évangile, hein, mais qui recherchent la parole de Dieu et qui cherchent ça plus que de l'argent. Voilà, donc on prie que, évidemment, ces personnes puissent lire et être touchées. Mais dans l'Évangile de Jean, et dans ces trois évangiles, il y avait deux fois l'Évangile de Jean. Donc, il y a deux chances sur trois qui tombent là-dessus. Qui lit cela, eh bien, vous voyez l'amour de Jésus. L'amour de Jésus qui est manifesté tout au long de l'évangile de Jean. C'est extraordinaire. Vous le voyez bien sûr dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu. Mais dans l'évangile de Jean, c'est tellement là, frappant. Et il y a ce verset qu'on connaît bien. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais tout ça, c'est un verset qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on peut entendre, c'est quelque chose qu'on peut avoir affiché sur un mur. Mais la réalité s'est manifestée en Jésus-Christ. Et Jésus, tout au long de l'Évangile, eh bien, va se manifester avec amour. Il va se manifester dans le chapitre 4 avec amour auprès de la Samaritaine. Il avait des choses à reprocher dans la vie de la Samaritaine. La loi condamnait cette femme. Elle était coupable. Elle n'avait aucun espoir et les complexes qu'elle avait, vous savez, quand on sait qu'on est coupable, quand on a traîné ça dans la conscience pendant des années, il y a une barrière qui s'est construite quand on sait qu'on a mal agi, quand on sait qu'on a enfreint la loi de Dieu et qu'on respecte la loi de Dieu, quand on sait qu'on a sur la conscience des choses qui nous accusent, eh bien on crée toute une muraille, on crée quelque chose à l'intérieur qui nous isole de plus en plus et la vie devient terrible. Combien de gens ont leur conscience troublée, rongée, parce qu'ils ont fait des choses il y a quelques années desquelles ils n'arrivent pas à trouver, pour lesquelles ils ne trouvent pas le pardon. Et Jésus n'a pas commencé à faire le bilan de sa vie. Il n'a pas commencé à ressortir de A à Z ce qui n'allait pas. Il lui a donné des paroles d'amour. Il a manifesté l'amour à cette femme. Il lui a dit ce que jamais un homme lui avait dit auparavant. Et il l'a délivré, il lui a donné la puissance d'être une femme libre. S'il y a un seul message qui rend les femmes libres, c'est le message de l'Évangile. C'est le message de la libération. Et vous le lisez dans Jean chapitre 5, 7 et Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et c'est ce que cette femme a découvert dans Jean chapitre 4. Elle a découvert la vérité, elle a découvert la lumière dans sa vie. Elle n'avait plus rien à cacher parce qu'il lui avait dit tout ce qu'elle avait fait. Et elle était libre. Elle était libérée. Dans Jean chapitre 5, il y a l'amour de Jésus qui est manifesté à ce paralytique. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Mais quel amour de prendre compassion de quelqu'un qui est lié depuis des années. Est-ce que lorsque vous voyez quelqu'un qui est lié, qui est troublé, depuis des années, vous êtes ému de compassion? Est-ce que vous voyez dans cette personne quelqu'un qui peut être libéré aujourd'hui, qui peut recevoir la puissance de Dieu qui lui permette de se lever, de se tenir sur ses pieds et de marcher? C'est l'amour de Christ qui a fait qu'il a vu cet homme. Il y avait tant de gens à voir. Il y avait tant de personnes à considérer, tant de distracteurs. Il y avait tant de distractions autour de lui, mais il a vu cet homme. Et lui a donné la parole de l'Évangile, la parole de Dieu pour cet homme. Cette parole est pour vous aujourd'hui, si vous croyez. Dans Jean chapitre 8, il est question d'une femme encore une fois accusée par la loi. Et en plus, c'était par la loi de Dieu qu'elle était accusée. Ce n'est pas seulement la loi des hommes, c'était la loi de Dieu. Et cette femme n'avait aucun espoir. Elle avait la tête baissée. En plus, on allait l'amener devant le maître Jésus, celui qui était saint, et quelle culpabilité elle devait ressentir. Et les hommes l'accusaient. Vous savez que la société vous accuse. Le monde accuse dès lors qu'il y a une erreur, dès lors qu'il y a une faute. On va pointer le doigt et on va dire voilà ce qu'ils font. Mais Jésus n'a pas accusé cette femme. Jésus a été plein de miséricorde et il est plein de miséricorde à votre égard. Peut-être vous avez peur de vous approcher de Dieu, de Jésus ce matin, parce que vous dites, il va me reprocher mon passé, parce que je suis impardonnable, il ne peut pas accepter ma vie telle qu'elle est, il ne peut pas me considérer, il ne peut pas prendre pitié de moi. Eh bien, Jésus vous aime. L'Évangile, c'est que Jésus vous aime, que Dieu vous aime. Et comment quelqu'un qui aime peut-il être dur avec la personne qu'il aime? Mais Jésus vous aime ce matin et il veut que vous veniez à lui en disant « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne, je n'arrive pas à marcher. Quand j'essaye de marcher, je tombe. » Est-ce que Dieu vous condamne en disant « Ben alors, tu n'as pas tenu, tu n'as pas réussi à tenir debout, même pas un jour. » C'est les hommes qui vous font ça. C'est la loi de l'Ancien Testament qui vous juge. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ vous prend par la main et vous dit « Lève-toi et marche. Je veux te donner mon Saint-Esprit ce matin. Je veux te donner la puissance. Et si tu n'arrives pas à marcher, c'est parce que je veux t'apprendre que tu as besoin de chercher le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous aider à marcher. C'est seulement en demandant « Seigneur, révèle-toi à moi et fais-moi marcher. Fais-moi tenir sur les pieds. » Que je puisse marcher comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu, pour que je puisse te servir. C'est ça le message, c'est ça l'espérance pour cette femme. Cette femme est partie libre parce qu'elle est partie en sachant que Dieu lui-même l'avait pardonnée. Parce que maintenant, si les hommes l'accusaient de son péché, elle avait ce témoignage dans son esprit que ce sont des accusations mensongères. Maintenant, je suis libre. C'était ce que j'étais autrefois, mais maintenant Jésus-Christ m'a libéré. Je peux marcher libre. Je suis une femme libre. C'est la femme dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 9, c'était la semaine dernière qu'on a parlé de ça. Il y a cet aveugle. Et Jésus a aimé cet aveugle et il a guéri. L'amour de Jésus manifesté. On ne voit pas toujours ça. On pense qu'il a fait juste un miracle parce que pour lui, c'était facile. Mais il était motivé, poussé par l'amour. C'est ça que vous devez avoir les uns pour les autres, de l'amour, de la profonde affection, de sorte à ce que quand un frère ou une sœur se réjouit, eh bien on puisse se réjouir, n'est-ce pas, avoir les mêmes sentiments, en disant « mais je me réjouis », même si c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à voir et que cette personne a. Vous réjouissez parce que vous aimez cette personne. Et quand vous voyez la tristesse, quand vous voyez la douleur et la peine, vous ressentez les mêmes douleurs à l'intérieur. C'est ça l'amour. Et Jésus a ressenti ce que devait ressentir cet aveugle. Et il s'est manifesté. Dans Jean chapitre 10, il est décrit comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quel est le berger qui donnerait sa vie pour les brebis? Il n'y avait pas beaucoup de bergers, certainement aucun mercenaire, mais il n'y avait pas beaucoup de bergers qui donnaient leur vie pour les brebis. Peut-être ils allaient se défendre leurs brebis, certes, mais ils n'allaient pas donner leur vie, mais Jésus l'a fait pour vous et pour moi. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse vivre sa vie. Il a donné sur la croix du calvaire. C'est ça le message. Je voudrais jamais prêcher autre chose que l'Évangile, que la puissance de la croix qui libère. Ce message d'amour manifesté à Golgotha, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a été accusé à tort, lorsqu'il a été mis au rang des malfaiteurs, il n'y avait que de l'amour dans ses paroles. Si vous analysez les paroles de Christ sur la croix, vous allez voir qu'il y avait de l'amour du début à la fin. Ce n'était pas de la revendication, ce n'était pas revendiquer ses droits, ce n'était pas justifier qu'il avait raison ou qu'il avait tort, c'était de l'amour et de la compassion, parce que ça va ensemble. Et c'est ça le sens prophétique de Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Dans Jean chapitre 11, il est question de son ami Lazare qu'il aimait. Les Juifs ont regardé comment il se comportait et les Juifs ont dit « Voyez, regardez comme il l'aimait ». Parce qu'il y avait de l'amour dans le cœur de Jésus à l'égard de Lazare, de Marthe et de Marie. Il aimait cette famille avec qui il avait passé des bons moments. Cette famille qui avait été toujours prête à l'accueillir quand il était de passage à Béthanie. Il avait cet amour pour ce Lazare qui était mort. Et peut-être ce matin vous dites « C'est pas paralysé que je suis ». Ce n'est pas un dans l'impossibilité de marcher, je suis mort. Il n'y a plus d'espoir pour moi, il n'y a strictement aucun espoir. Eh bien, Jésus-Christ a donné cette parole très puissante, n'est-ce pas, à Lazare qui était mort. Lazare sort. Et il a demandé aux autres d'enlever les bandelettes. Et c'est la parole de Jésus aussi pour vous si vous êtes dans un tombeau spirituellement ce matin. Entendez la voix de Jésus qui vous dit, parce qu'il vous aime, sors, sors de la mort, sors de cet échec spirituel, sors de cette vie spirituelle qui n'a rien comme sens, qui n'a pas de sens. Sors parce que Jésus peut te donner cette puissance aujourd'hui de sortir. Et il va demander aux frères et sœurs d'enlever les bandelettes, enlever tout ce qui lie ton corps, pour que tu puisses te manifester. Combien de gens sont liés devant Dieu, ne peuvent pas dire « Seigneur, je t'aime ». Combien d'hommes ne peuvent pas dire à leur femme « Je t'aime ». Combien de femmes ne peuvent pas dire à leur mari « Je t'aime ». Ils sont liés, ils peuvent l'écrire. Mais l'écrire, ce n'est pas du tout la même chose que le dire. Parce qu'ils sont liés par toute une culture, par tout un tas de choses qui se sont installées dans la vie qui rendent impossible et ça demande un effort extraordinaire pour produire et c'est pas normal. On a besoin d'être libéré. On a besoin de la puissance de la parole de Jésus qui s'adresse à nous et qui nous dit de sortir du séjour des morts, de se lever, de marcher de cet état de paralysie, d'impossibilité. On a le cerveau qui commande la jambe ou le bras et le bras ne répond pas, c'est terrible. On a décidé qu'on va dire, on va changer en disant à partir d'aujourd'hui je vais changer dans tel domaine, je vais commencer à manifester de l'amour pour un tel et c'est impossible, on n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que son esprit puisse agir dans nos vies pour que ça devienne naturel, pour que ça devienne quelque chose qui est aussi naturel que respirer. On n'apprend pas à nos enfants à respirer. Ils le font dès leur naissance. Dans Jean chapitre 12, il y a la manifestation de Jésus vis-à-vis de cette femme encore, de Marie de Béthanie, qui verse du parfum à ses pieds. Et voici que les gens qui étaient très bien, un des disciples ou de la famille d'un des disciples, commencent à reprocher. On ne doit pas faire ça. Et n'est-ce pas, vous savez que quand quelqu'un pleure dans une église, quand quelqu'un se met à pleurer parce qu'il est touché par l'Esprit de Dieu, il y a des gens dans l'église qui disent « on ne doit pas, on doit contrôler ses émotions ». C'est les mêmes paroles qui ont été prononcées contre cette femme. On ne doit pas dépenser de l'argent comme ça. On ne doit pas dépenser un parfum qui coûte aussi cher pour mettre sur les pieds d'un homme. Ça ne se fait pas. Mais Jésus était plein d'amour pour cette femme parce qu'il savait que le cœur de cette femme, c'était qu'elle avait été touchée par l'amour de Christ. Et quand vous êtes touché par l'amour de Christ, alors vous faites des choses bizarres. Vous faites des choses qui ne sont pas socialement correctes, politiquement correctes. Vous êtes libre de fonctionner selon l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 13, il nous est dit que Jésus mit le comble à son amour. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Maître, le Seigneur, il a lavé les pieds des disciples. Ça fait partie de la responsabilité, de la tâche des anciens, de laver les pieds des frères et sœurs. Pas littéralement, nécessairement, parce que ça pourrait gêner beaucoup de gens, mais ça veut dire de se mettre à quatre pattes et de pouvoir servir, de pouvoir faire les tâches les plus ignobles. C'est ça qui fait qu'on peut être accepté comme ancien. C'est pas le fait d'avoir des compétences. C'est pas le fait de pouvoir prouver qu'on peut être un leader. C'est le fait de pouvoir prouver qu'on peut être un serviteur, qu'on peut se mettre à quatre pattes, qu'on peut être au service des uns et des autres. Et ça, c'est le comble de l'amour. Mais le comble, il est dit dans Jean chapitre 13 que Jésus mit le comble à son amour pour eux. Mais ce n'est pas vrai. Pardonnez-moi de le dire. C'était vrai à cette époque-là, mais c'est plus vrai. Ce n'est pas là le comble de son amour. Le comble de son amour, c'est cette préparation dans Jean 14, 15, 16, 17. Préparation à la venue du Saint-Esprit, cette prière pour ses enfants, pour ses disciples. Et c'est la crucifixion de Jésus qui est le comble de son amour. C'est cette volonté de se livrer, comme on a lu dans Éphésiens, que Jésus s'est livré et vous devez vous livrer pour les frères et pour les sœurs. On doit se livrer les uns pour les autres en se donnant, être prêts même à souffrir pour les uns et pour les autres. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire dans Éphésiens chapitre 5 lorsqu'il dit « Marchez selon l'amour à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même ». C'est ça, marcher selon l'amour. C'est de pouvoir aimer les uns les autres. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Est-ce que vous pouvez dire, j'aime tellement ce frère. J'aime tellement cette sœur. J'aime tellement mon église. J'aime tellement les gens qui sont perdus. Je veux qu'ils se trouvent le salut. Je veux qu'ils rencontrent Jésus-Christ, qui est celui qui libère, qui est celui qui donne la vie. Il y a un deuxième aspect, je ne vais pas trop traîner pour ne pas être long, pour pas être trop long. Dans Éphésiens 5, on a vu verset 2, « Marcher selon l'amour ». Ici au verset 8, « Maintenant vous êtes... » Alors autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez dans la lumière, pas seulement marcher dans la lumière, soyez des lumières dans le monde. Que vous soyez éclairés par l'Esprit de Dieu qui vient éclairer vos vies, qui vient vous montrer ce qu'il faut faire. Dans Jean chapitre 16, je crois que c'est au verset 32, Jésus a dit, je vous enverrai, je vais paraphraser, je vous enverrai le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. Mais l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, va montrer le péché dans nos vies. Il va montrer ce qui doit changer. Et bien sûr qu'il y a des choses à changer. Bien sûr que dans nos vies, on doit reconnaître les uns et les autres qu'on a des choses qui doivent être changées. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le montre. C'est l'Esprit de Dieu qui éclaire. Et vous savez que quand il convainc de péché, alors il convainc de justice et il convainc de jugement automatiquement. Parce que lorsqu'on est convaincu qu'on a péché, on se dit, je sais que je mérite le jugement de Dieu. Si vous croyez juste ce matin, eh bien, il n'y a aucun espoir pour vous. Dieu ne peut rien faire. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens qui sont comme dans l'évangile de Jean, aveugles, pécheurs, handicapés, physiques, qui ne pouvaient pas marcher. Il est venu pour les gens qui avaient des mauvaises vies, ceux qui reconnaissaient leur état. Il est venu aussi pour des gens qui étaient bien comme Nicodème, un juste pharisien, mais qui a reconnu qu'il était le Messie, qu'il était le Seigneur. Il est venu pour ceux qui reconnaissaient leurs besoins de Dieu dans leur vie. Et c'est ça la lumière, n'est-ce pas, qui vient nous éclairer, mais c'est aussi une fait de nous une lumière dans le monde. Est-ce que vous êtes une lumière dans le monde? Est-ce que vous éclairez dans les ténèbres là où vous allez? Est-ce que les conversations changent en votre présence? Est-ce que, parce que vous êtes là, les gens sont touchés par votre amour, sont éclairés parce qu'ils voient la lumière de Dieu? C'est ça la vie de l'apôtre Paul. C'est que quand on voyait sa vie, eh bien, si on était honnête, on reconnaissait qu'il y avait Jésus-Christ. Il y avait quelque chose qui disait, je reconnais qu'il est l'apôtre choisi de Dieu. Parce qu'il y a là, il est la lumière pour nous. Il a été lumière. Vous voyez que ici, il dit au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Soit Jean-Baptiste, il est dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il est venu rendre témoignage à la lumière. Ici, il est question d'être lumière. Comme Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière, elle doit briller dans les ténèbres. Elle doit éclairer les hommes et les femmes. Elle doit éclairer dans l'Église par l'amour. C'est l'amour, cette lumière. C'est la même chose. Elle doit briller dans l'Église pour que, sans que vous ayez besoin de dire une parole ou une autre, on dise, mais ça, c'est quelqu'un qui vit selon l'Esprit de Dieu et je veux connaître l'Esprit de Dieu. Je veux connaître davantage. C'est ça la lumière qui vient briller et qui nous éclaire et qui nous amène à Christ. Est-ce que vous voulez ça ce matin? Je sais que si on demande du fond du cœur ce matin pour la première fois ou pour la millième fois, si on lui demande « Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit », il le donne, il nous éclaire et on peut marcher, on peut se lever. Mais demandez, dites à Jésus, je n'ai personne. Parce que réellement, vous n'avez personne. Ce n'est pas une église qui peut vous aider à marcher. Ce n'est pas un prédicateur qui peut vous aider à marcher. C'est Jésus-Christ qui peut donner la parole pour que vous vous leviez et que vous marchiez. Amen.